Chers amis, bonjour. Soyez les bienvenus ici, chez vous, chez l'Institut culturel Quetzalcoatl. Nous sommes déjà préparés pour commencer la conférence d'aujourd'hui qui sera l'éducation fondamentale. Ce sujet, en effet, est, bien sûr, fondamental, basique, étant donné que nous devons éduquer qui ? Bien, l'éducateur. Si nous voulons éduquer correctement nos enfants, qui sont la future génération, nous devons tout d'abord nous éduquer nous-mêmes. Nous éduquer nous-mêmes, puisque la meilleure façon d'éduquer se base sur l'exemple. Si nous ne donnons pas le bon exemple, il n'existe pas de bonne éducation. L'exemple est toujours celui qui est suivi. Si nous voulons que nos élèves, nos employés, notre famille a quelques caractéristiques bien spécifiques, d'être organisé, d'être responsable, d'avoir responsabilité, d'avoir de bonnes caractéristiques, de bonnes attitudes, bien, nous devons devenir un exemple pour lui de ces caractéristiques que nous les demandons. Nous devons avoir une éducation fondamentale et c'est dont nous allons parler aujourd'hui. Eh bien, nous devons tout d'abord avoir un mental très ouvert pour accepter ces sujets. Nous devons pouvoir les identifier dans notre vie afin de nous transformer nous-mêmes. Si nous voulons influencer positivement les autres, nous devons tout d'abord changer nous-mêmes. Changer nous-mêmes. Un conte d'un philosophe hindou raconte que lorsqu'il était enfant, il savait réfléchir et les prières qu'il faisait à la divinité étaient « Mon Dieu, donnez-moi la force nécessaire pour changer le monde entier. » Voilà ce qu'il demandait étant un fils, étant un enfant. Il se rendait compte de tous les problèmes qu'il avait dans le monde et il désirait changer ce monde. Au fur et à mesure qu'il grandissait, ses prières changeaient aussi. Il se rendait compte que le monde entier était vraiment très grand. Alors, il priait. « Mon Dieu, donne-moi la force et le courage nécessaires pour changer mon pays. » Il continua à grandir, et les années passaient, les prières changèrent encore. « Mon Dieu » pria-t-il, « donne-moi la force et le courage pour changer ma ville !» Puis, il atteignit la vie adulte, il prêchit ainsi. « Mon Dieu, donne-moi les forces pour changer ma communauté, c'est comme dire ma quartier. » Puis, il devint un homme mûr et ses prières changèrent encore avec l'expérience. « Mon Dieu, donne-moi les forces et le courage de changer ma famille. Faire seulement cela sera une bonne chose. » Et lorsqu'il devient mieux, sa prière fut la suivante. « Mon Dieu, donne-moi la force et le courage de me changer moi-même. » Ce conte, à lui seul, résume ce que nous souhaitons étudier dans notre conférence aujourd'hui. Nous devons diriger cette éducation nous-mêmes. Nous devons nous rendre compte que nous ne possédons pas une éducation fondamentale, avec morale, avec de l'éthique. Nous avons une éducation de base. Nous sommes perdus à un moment donné de l'histoire, vous savez. Nous avons atteint un point où tout est allé de travers. Tout n'était qu'erreur. Et nous avons mis en place des éléments qui n'étaient pas corrects pour une bonne éducation. De nos jours, il y a d'importantes études de grandes technologies, des sciences avancées. À quoi nous sert tout cela s'il n'existe pas une éducation fondamentale? Si nous nous faisons du mal les uns les autres, si l'exploitation de l'homme par l'homme est si répandue, s'il y a de la violence dans la famille, s'il n'y a plus de respect pour les parents, plus de respect pour les enseignants, plus de respect pour les personnes âgées, plus de respect pour rien. Alors, à quoi nous sert tout cela? Science, technologie, etc. S'il n'y a pas une éducation fondamentale pour nous comporter avec les autres, avec nos parents, avec nos enfants, avec notre épouse, notre femme, notre mari, si vous êtes enfant. Il est indispensable que nous analysons, que nous réfléchissons à tous ces sujets, mais que notre réflexion se trouve en nous-mêmes. Que nous réfléchissons à ce qu'est notre vie, à notre conduite, à ce que nous faisons. Nous devons réfléchir par nous-mêmes, avoir une libre initiative, parce que nous n'avons aucun. Nous fonctionnons seulement comme des machines, comme des automates, oui. C'est ainsi que nous agissons tous actuellement dans notre société. C'est comme si tout était pour fabriquer des robots programmés afin qu'ils servaient à certains intérêts. Et c'est tout. Et c'est tout dans toutes les écoles, qu'elles se trouvent au nord, au sud, au Orient ou en Occident, dans des pays civilisés ou dans des pays de tiers-monde, sont de toutes les façons des études mécaniques, des études qui font que nous ne savons même pas pourquoi nous étudions. Nous allons à l'école, au collège, au lycée, à l'université, dans des écoles supérieures, mais nous ne savons même pas pourquoi nous y allons, ni pourquoi nous étudions. On nous demande tout simplement d'emmagasiner un très grand nombre d'informations, mais pourquoi devons-nous mettre autant de choses dans notre mémoire? Dans quel but emmagasinons-nous tout cela dans notre cerveau? De plus, est-ce que nous nous sommes toujours posé les questions? Pourquoi est-ce qu'il y a toute la géographie? Pourquoi dois-je apprendre toutes les capitales du monde? À quoi me servira l'algèbre, la chimie, etc.? À quoi cela va me servir dans ma famille, dans mon foyer? Est-ce que cela a un sens pratique? À quoi me va servir de connaître les théories d'évolution de Darwin, par exemple? Et à quoi va me servir tout cela dans ma vie? Quel va être le sens pratique de tout cela? Non. Nous nous comportons comme des robots, comme des automates. Est-ce que nous intéresse seulement c'est de passer notre année de l'école, d'avancer pour réussir l'année et la passer, c'est tout. Mais pourquoi étudions-nous? Pourquoi étudions-nous? Nous n'avons pas de conscience dans ce que nous étudions, c'est-à-dire que nous faisons des études de façon mécanique. Nous continuons à avoir une conscience endormie. Nous emmagasinons seulement des informations dans notre cerveau, mais notre conscience, elle, continue à être endormie. Attention, étudier n'est pas une mauvaise chose. Les études ne sont pas mauvaises, et l'agnose ne sera jamais contre les études, au contraire. L'agnose encourage les études, mais pas les études mécaniques qui ne servent à rien. Regardez notre société actuelle, dans le monde entier, et dans toutes les parties du monde, on se base seulement sur les études intellectuelles. Il faut emmagasiner beaucoup d'informations et de théories dans notre cerveau, mais nous n'avons pas résolu les grandes problématiques existantes dans le monde elle-même. Nous les avons compliquées. Nous déclarons, par exemple, l'énergie solaire va résoudre les problèmes de la contamination. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais réellement, avec les approches que nous mettons en œuvre, avec notre mentalité compliquée de nos jours, cela n'est en fait pas une solution. Alors, allons voir. Où allons-nous mettre tous les déchets, tous ces panneaux solaires qui transforment l'énergie solaire en énergie électrique lorsqu'ils seront hors d'usage? Et avec quelle énergie construisons-nous ces panneaux solaires? Comment allons-nous faire leur maintenance, etc.? Comme nous avons la conscience endormie, nous ne nous rendons compte de rien. Les voitures électriques vont être une solution pour la contamination. Oui, d'accord, mais d'où et avec quoi allons-nous construire ces batteries électriques? Et où vont aller les vieilles batteries? Quel impact cette production d'électricité aura-t-elle dans la nature? Si nous avons besoin des centrales nucléaires pour produire de l'électricité, où allons-nous déposer ces déchets radioactifs? Près des usines thermoélectriques, nous pouvons observer que les intendus de forêt qui ne trouvent pas non-loin de là sont complètement asséchés et personne ne s'explique pourquoi. Comment faisons-nous tourner les turbines? Nous n'avons rien, nous ne savons rien, nous ne savons rien de toute cette énergie. C'est la même chose avec les éoliennes. On dépense beaucoup d'argent pour transformer la force de vent en énergie électrique. Et souvent, elles sont en échec. Les gouvernements gaspillent beaucoup d'argent parce que nous n'avons pas la conscience éveillée, parce que nous sommes seulement que des purs intellectuels. Nous ne fonctionnons qu'avec des raisonnements et les problèmes subsistent toujours. La contamination continue, les maladies continuent. Nous sommes toujours remplis d'orgueil, de vanité, de fierté, parce que nous avons découvert ceci ou cela pour guérir telle ou telle maladie. Nous découvrons telle chose et nous incompliquons 10 000. Nous faisons pousser des plantes et en même temps nous en faisons mourir beaucoup d'autres. Nous ne trouvons la solution de rien. Regardez comment nous sommes, nous nous justifions. Nous faisons mille et mille raisonnements Mais la maladie, la mort, la désolation, les problèmes, la contamination continuaient d'envahir le monde. Cela signifie que quelque chose ne va pas, que quelque chose ne tourne pas rond. Nous nous trompons quelque part. L'éducation intellectuelle n'est pas toute. Enmagasinée, pleine de théories dans notre cerveau n'est pas toute. Nous avons aussi besoin d'éveiller notre conscience. Éveiller notre conscience. Absolument. Nous sommes vraiment des personnes très robotisées. Nous ressemblons à ces chaînes du signe qui construisent des voitures. Nous ressemblons à ces chaînes alimentaires ou ces chaînes qui construisent des ordinateurs. Oui, c'est à cela que nous ressemblons tous. Nous produisons en fait une série de machines humaines qui doivent se conduire et penser tous d'une certaine façon pour un unique objectif. Des automates, des petites machines humaines. Voilà ce que nous sommes devenus. C'est tout. Nous devons emmagasiner dans notre mémoire au moyen de différents et de nombreuses méthodes pédagogiques dans les écoles, des tonnes d'informations, oui. Mais pourquoi si notre mémoire est infidèle? Ensuite, nous nous préoccupons pour réussir et passer l'année. Voilà dans quel état nous nous trouvons. Mais bien sûr, il y a des rares exceptions et elles peuvent être comptées sur les doigts de la main. Oui, il existe des professeurs merveilleux, magnifiques, extraordinaires. Et il serait fantastique que tous les professeurs soient ainsi dévoués entièrement à leur vocation, donnant tout ce qu'ils ont pour instruire. Est-il vrai que c'est un véritable dharma? C'est-à-dire, payé comme d'argent cosmique, un dharma. Que d'avoir un professeur de ce genre, parce que ce professeur, avec ses vocations, avec cet amour qu'il a pour instruire, peut changer notre vie. Hélas, ils sont actuellement vraiment très rares des professeurs de vocation, car c'est de ceux-là dont nous avons besoin. Nous avons aussi besoin d'élèves qui savent réellement pourquoi ils vont à l'école. De nos jours, comme nous le disions, des élèves veulent aller à l'école pour réussir et passer l'année scolaire. Et c'est à cause de tous ces élèves, eux-mêmes, des professeurs, des parents, de la société. C'est la faute de tous, bien sûr. L'élève veut simplement terminer l'année. Apprendre ne l'intéresse pas. Obtenir un travail ou une profession pour s'intégrer dans la société et la servir en accomplissant sa vocation ne l'intéresse pas. Nous sommes tous coupables parce que, en tant que parents, nous leur disons souvent « Étudie tes examens parce que sinon tu seras pauvre. Étudie parce que sinon tu seras un misérable. Étudie parce que sinon tu échoueras dans la vie, etc. etc. » Alors, l'unique chose que nous réussissons à faire en disant tout cela, c'est d'installer dans la tête de nos enfants de la cupidité. Nous faisons en sorte qu'ils fassent tout ce qu'il faut pour réussir et passer l'année. Nous ne les observons pas. Nous ne remarquons pas les qualités qu'ils possèdent en eux pour savoir à quoi ils vont servir dans la vie, pour devenir leur véritable vocation. Nous ne leur disons pas, si ta vocation est de soigner, de guérir les autres, alors il faut que tu étudies la médecine. Non, nous leur disons en revanche, étudier la médecine, car les médecins gagnent beaucoup d'argent, ils ont de belles maisons et de belles voitures, ils sont en grand train de vie. Voyez-vous, nous sommes très coupables, nous faisons en sorte que les élèves passent leur année de tout coûte que coûte. Aller à l'école, passer et réussir les examens, c'est tout. Nous sommes toujours en train d'imaginer le futur avec beaucoup de fantaisie. Si le gouvernement change, qu'est-ce qu'on va devenir? Si je me marie, qu'est-ce que je vais faire avec ma nouvelle famille? Et si je ne me marie pas, qu'est-ce qui va-t-il passer? Nous sommes sans arrêt en train de penser au futur et à ce que nous ferons plus tard. Il faut vivre au présent. Il faut apprendre à vivre chaque étape de notre vie, car chaque période de celle-ci est extraordinaire. Pourquoi, chers amis, pensons-nous toujours à la future voiture que nous pourrons nous offrir? Toutes les étapes de la vie sont importantes, bien sûr, l'enfance, l'adolescence, la vie adulte. Nous faisons nos études toujours soumises à un très grand stress et il y a beaucoup d'enfants qui ont étudié beaucoup qui ont beaucoup de stress et aujourd'hui ont des maladies intestinales à cause de ce stress, à cause du stress scolaire. Mais ce n'est pas possible, c'est insensé, chers amis. Ils sont des maladies d'adultes, des maladies que les adultes ont lorsqu'ils ont bien abîmé leur corps durant plusieurs années, des ulcères, des gastroentérites, que les enfants aient déjà ce genre de problèmes à cause du stress scolaire, à cause de leur anxiété de bien terminer l'année et de réussir les examens, n'est pas correct. Si déjà les enfants, dès leur plus jeune âge, ont ce genre de maladies, alors on peut imaginer ce qu'ils subiront lorsqu'ils seront adultes. Où tout cela va nous mener? Notre éducation, ce n'est pas correct. Nous ne sommes pas sur le bon chemin. Il est certain que nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons commencer par nous changer nous-mêmes. Rappelez-vous les contes de ces philosophes. Notre vie à l'école est d'un niveau très bas. Nous sommes comme des automates, des petits robots, des zombies. Nous ne savons pas à quoi vont nous servir toutes ces connaissances et en plus, nous n'avons aucune idée de leur utilité. Il faut un temps, il y a longtemps, l'éthique existait à l'école, mais cette éthique a disparu. De nos jours, 50 enfants se trouvent dans la même classe. Pauvres instituteurs, pauvres professeurs, comment peuvent-ils s'occuper de tant d'enfants? De quelle manière ils ne peuvent même pas retenir leur nom? Il n'y a plus d'éthique ni d'ordre dorénavant. Beaucoup d'instituteurs n'ont pas la vocation et peuvent être corrompus secrètement. Les élèves peuvent passer sans difficulté leur examen à cause de ces corruptions. Ils peuvent passer des matières sans en connaître un moindre mot. Il y a aussi des élèves qui se moquent ouvertement de leurs professeurs, des petits élèves qui leur font du charme et qui passent d'année haute la main sans savoir la connaissance des matières qu'ils étudient. Il y a aussi des élèves très malins, non pas sages ni intelligents, mais simplement très astucieux, qui passent leur examen en trichant. Il existe mille et une façons de tricher pendant les examens, et maintenant, avec la technologie actuelle, c'est encore plus facile. L'objectif est de passer toutes les années d'études, de réussir. Mais cela n'a aucun sens. Il faut que je termine l'année, il faut que j'aie mon examen, il faut que je passe dans l'année supérieure. Oui, nous pensons cela, mais pourquoi? Je suis une troisième année, je suis une sixième année, nous disons. Mais qu'est-ce que cela signifie? Être en troisième année signifiera, par exemple, si nous parlons des choses véritablement pratiques, avoir des vaches, peut-être savoir s'occuper des animaux, oui, savoir planter des légumes, avoir des vaches dans tous les domaines, réparer une bicyclette, pourquoi pas? Voilà quoi serait très pratique dans notre vie. On saurait quoi faire de pratique. Et une personne qui serait au sixième année, eh bien, ce serait une personne qui saura s'occuper d'un enfant, oui, qui saura réparer un moteur de scooter, qui pourrait faire des choses pratiques et palpables. Mais nous sommes en sixième année et nous ne savons rien faire de manière pratique. Nous ne savons même pas pourquoi nous étudions. Nous terminons nos études et nous en sortons même comme des automates endormis. Cela ne sert à rien. 10 ans d'études, 15 ans d'études, 22 ans d'études nous avons aujourd'hui. Mais maintenant, il est obligatoire, vous savez, pour un enfant de faire 300 de maternelle ici au Mexique, puis 600 d'études basses. Ce qui fait déjà 9 ans, puis 300 d'études secondaires, alors nous avons 12 ans d'école, 300 d'études préparatoires, cela fait 15, et ensuite 5 ans d'université, nous avons 21, et souvent ce n'est pas suffisant, car il faut passer aux maîtresses pour trouver un travail. Alors nous avons 22 ou 23 ans à l'école. Au final, nous sommes toujours endormis, c'est inconscient de notre conscience. Nous ne sommes même pas capables de faire du calcul mental. Nous avons besoin d'une calculette. À quoi donc ont servi toutes ces années d'études. 22 ans d'études pour devenir ensuite un vieux père de famille qui ne sait rien de ses enfants et ne vit pas avec eux. 22 ans d'études pour ne pas savoir partager des choses avec eux ou avec son épouse ou son époux qui ne les connaît même pas, qui ne sait pas vivre avec les gens, qui ne sait pas être honnête, qui ne sait rien de pratique. À quoi ont donc servi toutes ces études? 20 ou 22 ans à l'école, c'est une triste réalité. Étudier n'est pas du tout une mauvaise chose, je le répète, bien sûr, mais les études doivent être conscientes. Nous devons faire que chaque connaissance fasse partie de notre vie quotidienne. Nous devons aller à l'école et appliquer dans la pratique toutes les connaissances que nous avons reçues. Dans la cuisine, à la maison, dans les foyers, avec les amis, avec son épouse ou son époux, avec les compagnons des yeux, il faut que nous appliquions ces connaissances, qu'elles fassent partie de notre vie. Faire que ces connaissances soient pratiques. Alors oui, c'est tout serait une bénédiction. Que pouvons-nous faire alors? Changer tout le système des études? Non, ce serait bien difficile, mais ce que nous pouvons faire, c'est que chaque étude soit une étude consciente. Très bien, connaître notre travail. Et quand nous étudions, le faire en conscience. Que notre étude fasse partie de notre vie quotidienne, de nos émotions, de nos pensées. Et alors, si nous faisons cela, les études seront une bénédiction pour nous. Vous savez, il y a des écrivains qui étaient des mauvais élèves à l'école. Avoir de bonnes notes n'implique pas que nous ferons de notre vie un échec ou une réussite. Il y a des personnes... Pardon. Il y a des personnes aussi qui ont des licences et qui sont devenues vendeurs de tacos. C'est un nourriture ici à Mexico, à Mexique. Évidemment, vendre des tacos n'est pas un délit. Mais si nous avons étudié par 20 ou 22 ans, si nous avons étudié si longtemps, c'était pour, en fin de compte, vendre des tacos. Ces 22 ans de tout auraient pu être formidables. Combien d'argent avons-nous dépensé pour toute cette étude? Avoir une licence n'est pas un métier, n'est pas non plus un délit. Être architecte non plus, n'importe quelle profession est merveilleuse. N'importe quel travail est extraordinaire. Parce que l'étude n'est positive que lorsqu'elle est autoconsciente. De nombreux métiers étudiés ne servent à rien. À 50 ans, par exemple, avons-nous utilisé et mis en pratique tout ce que nous avons étudié? Qu'est-ce avons-nous fait durant notre vie de tous les jours? Nous allons nous apercevoir que nous avons étudié énormément de matières qui ne nous ont servi à rien. Beaucoup de matières qui n'ont aucun sens, qui ne valent pas la peine, qui ont les étudiées et qui encombrent notre mental. Mais il y a aussi beaucoup de matières importantes qui nous manquent. Il devrait y avoir des professeurs spécialisés dans les vices de l'alcool et les drogues, par exemple. Des véritables médecins et psychologues experts dans l'addiction de l'alcool et des drogues, qui enseigneraient aux enfants, dès leur plus jeune âge, toutes les conséquences de ces substances de manière didactique. Ce serait formidable, mais cette matière n'existait pas dans notre école. Eh bien non, au lieu de cela, nous étudions des matières qui ne nous serviront à rien. Jamais. Des théories qui ne nous serviront à rien dans la vie. Vous voyez, on nous a longtemps enseigné qu'il existait 9 planètes, et de nos jours, nos enfants nous affirment qu'il n'y a que 8 planètes. Mais dites-moi, même si cette planète est très petite, elle est toujours là. Elle existe toujours, non? Il faut faire attention à ce que disent les scientifiques, car même si cette planète Pluton est très petite, elle est là, elle accomplit sa mission toujours, n'importe quelle pensons-nous de lui. Les études qui se fassent il y a 30 ans ne sont plus à la mode. Ce que nous avons appris il y a 30 ans ne sert plus à rien de nos jours, parce qu'il existe d'autres théories, d'autres informations. Il est donc absurde d'apprendre autant de théories qui ne servent à rien. Et en plus, lorsque nous terminons d'étudier de façon inconsciente, nous avons un travail complètement robotisé. Mais pourquoi? Eh bien, nous ne le savons pas. Nous travaillons comme des automates pour gagner notre vie et c'est tout. Nous vivons parce qu'il faut bien vivre. Nous vieillissons et nous mourons en ayant toute la conscience endormie, sans savoir pourquoi nous vivons ni dans quel but nous venons au monde. L'intelligence est bien différente de l'intellectualisme. Nous ne sommes bien sûr pas contre l'intellect. Évidemment que non, d'accord? L'intellect est une faculté de l'être humain très utile. Ce qui se passe, c'est que maintenant, nous en abusons beaucoup trop, de même que le fanatisme religieux. La religion n'est pas du tout une mauvaise chose, mais le fanatisme religieux lui-même a des guerres terribles, ce qui est vraiment absurde. Mais non, l'intellect n'est pas mauvais, les études non plus, mais abuser du mental, emmagasiner autant de théories qui ne nous servent à rien, sans savoir pourquoi nous les étudions, simplement pour gagner de l'argent, c'est ce qui a amené notre société à avoir les mauvaises pièces pour sa machinerie, pour son bon fonctionnement. L'intelligence est vraiment très différente de l'intellect. Nous devons avoir une conscience éveillée pour être intelligente. L'intelligence nous est nécessaire pour résoudre les problématiques que nous rencontrons dans notre vie quotidienne, dans notre existence. Mais pas l'intellect. Les raisonnements ne servent à rien. Mais l'intelligence, oui. Mais pour être intelligente, nous devons éveiller notre conscience, car elle est actuellement et nous endormie à 97%. Ce n'est pas seulement quand notre corps physique dort, mais notre conscience est aussi endormie lorsque notre corps physique est actif. Oui, nous devons éveiller notre conscience pour que se développe en nous notre intelligence. Et pour cela, il est nécessaire que nous ayons la liberté. Nous disons bien la liberté et non pas le libertinage, ce qui est une chose bien différente. Si nous donnons de la liberté à nos employés, à notre famille, à nos enfants, ce n'est pas leur permettre d'aller à une fête jusqu'à 3 heures du matin, car là, ce n'est pas de la liberté, mais du libertinage. Nous avons besoin de liberté, mais aussi d'ordre. Liberté et ordre, ces deux mondes doivent absolument être réunis toujours, en parlant de la jeunesse. La liberté dans un ordre. Lorsque nous provoquons la peur, nous ne sommes pas en train de donner de la liberté. Lorsque nous installons des dogmes, par exemple dans la science ou dans la religion, nous ne donnons pas la liberté. Il y a des choses en science qui n'ont jamais été prouvées. Nous n'avons jamais vu qu'un être humain est venu d'un singe, par exemple. Jamais. Cette théorie de l'homme de sang du singe a été inventé il y a des siècles, mais n'a jamais été prouvé. Mais nous devons croire en celle-ci, même si elle n'a jamais été prouvée. Voilà ce qu'est un dogme. Toutes les religions sont des perles précieuses enfilées sur les fils d'or de la divinité. Chacun accomplit sa mission, mais nous avons mis des dogmes dans la religion et on nous demande de croire et d'accepter toutes ces dogmes, c'est tout. Nous ne pouvons pas analyser. Nous ne pouvons pas critiquer. Nous ne pouvons pas donner notre avis. Alors la liberté se perd. Il n'y a plus de propre initiative. Il n'y a pas d'expression créatrice dans nos œuvres, dans tout ce que nous faisons. Alors, notre mental se dégénère. Notre mental se pétrifie dans un canal étroit avec la peur. Dormez. La peur de « qui dira-t-on » etc. Cette peur et dogmatisme nous empêchent d'analyser, ne nous permettent pas de demander pourquoi, par exemple, Platon fut un philosophe aussi important, parce qu'il se trouve qu'il n'est pas assez important que ça. Pourquoi dit-on que le théorème de Pythagore est la base de l'algèbre et de la trigonométrie? Parce que si ça se trouve, ce n'est pas si exact que ça. Il est possible que je ne sois pas d'accord avec toutes ces affirmations. Nous avons besoin d'analyser, mais nous ne devons pas non plus avoir une critique destructrice. Mais non. Mais faire preuve d'une critique constructive, faire une analyse de fond qui vient de la méditation, d'une profonde réflexion. Dans ces cas-là, le tout, oui, c'est fait de façon consciente. Une toute conscience se manifeste de façon naturelle, spontanée, dans notre vie. Si nous étudions en conscience, meilleur sera notre travail. Si on étudie en conscience, notre vie s'améliorera. Si on étudie en conscience, les choses changeront, et bien, dans la société et dans le monde. Mais si nous étudions de façon mécanique, eh bien, on ne fait rien. Nous sommes des machines, je le répète, des robots. Pourquoi? Eh bien, parce que nous imitons tout. Et nous portons en nous cette pure dépouille de l'école. On nous demande d'apprendre les choses par cœur, sinon nous serons mauvaises notes. Nous devons penser comme les professeurs, comme notre père ou notre grand-père. Sinon, nous serons rejetés par la famille, expulsés. Ou bien, nous entrerons dans le libertinage. Dans aucun ordre. Nous deviendrons irrespectueux, mais de toutes les façons, nous tomberons toujours dans l'imitation, d'une manière ou d'une autre. Nous imitons nos parents par peur. Nous imitons nos professeurs par peur. Nous imitons nos amis par peur. Et si nous sommes dans la rue, nous imitons les personnes de la rue, et tout cela par peur. Nous avons de l'alcool par imitation. Nous prenons des drogues par imitation, par peur. Par peur, nous commençons à imiter nos amis, notre famille. Et nous confondons très souvent cette peur avec l'amour. Lorsque l'on dit « j'aime mes parents », ce n'est pas de l'amour, mais la peur. Peur d'une situation économique néfaste. J'aime l'école, on aime l'école, parce qu'on a peur d'être renvoyé de l'école. Tout cela n'est que le produit de la peur. Quand quelqu'un est pauvre à l'intérieur, alors il cherche à l'extérieur quelque chose pour combler cette pauvreté intérieure. Nous faisons les boutiques, nous achetons ceci ou cela. En faisant cela, nous recherchons seulement à combler avec l'extérieur ce qu'il nous manque à l'intérieur. Nous sommes toutes comme cela. Nous sommes toutes faites pareilles. Lorsque l'on est intérieurement pauvre, on vit dans les bavardages, les critiques et les entrées. On fait courir la rumeur. On s'attache aux traditions par peur. Nous attachons aux diplômes et aux titres par peur. Souvenez-vous, il y a longtemps des titres de marquis ou de comtes, je ne sais quelle province. De nos jours, les études ne sont pas mauvaises, mais croire que l'on est plus important que les autres parce que nous avons fait des études, oui, cela affecte notre vie. On se sent très importante parce qu'on nous appelle docteur, monsieur l'ingénieur ou avocate. Oui, nous nous attachons beaucoup à nos titres parce que nous avons peur. Parce qu'intérieurement, nous sommes pauvres. Alors, nous imitons. Si nous sommes médecins, nous imitons les autres médecins. Nous avons peur qu'ils nous rejettent, qu'ils nous excluent de leur cercle. Nous ne désirons plus guérir ou soigner, non. Nous avons peur de l'ordre des médecins. Nous avons peur d'être rejetés de celui-ci. Nous avons peur de perdre notre titre. Les études ne sont pas une mauvaise chose, mais nous devons apprendre à arrêter d'être la copie de la copie de la copie, arrêter d'imiter. Nous imprimons des documents avec une belle imprimante laser, mais avec le temps, ils s'abîment. Ils vieillissent à force de faire des copies et des copies, et nous sommes ainsi en copie de notre copie d'un copie. On nous a toujours appris à imiter, à copier. Nous imitons à l'école. En tant que père de famille, nous apprenons à nos enfants à nous imiter. Dessine-moi un petit arbre, s'il te plaît, nous demandons. Et l'enfant se met à dessiner un arbre en coloriant les feuilles en mauve. Que fais-tu, mon fils? C'est une erreur. Les feuilles ne sont pas mauves, mais elles sont vertes. Alors, nous apprenons à nos enfants de photographier les choses, dans les dessins, mais dans toutes choses aussi. C'est très différent de l'art scène, pardon, parce que l'art scène est une expression de ce que captent les dessinateurs, les peintres, les sculpteurs, une expression de ce qu'il capte dans son intérieur. Ils ne prennent pas la photo d'une dame, par exemple, ou d'un coucher de soleil, ou d'un arbre. Mais ce qu'ils captent, c'est ce qu'ils ressentent. L'entité de cet artisan merveilleux japonais ou chinois est maintenant quelque chose que nous appelons de l'art moderne, mais qui n'est qu'un mélange bizarre de ne sais quoi, mais ce n'est pas de l'art. L'art d'aujourd'hui est l'entité de l'art zen. C'est du véritable art abstrait. Mais ce que nous voyons que nous, de nos jours est vraiment horrible, qui n'inspirait rien à part de la violence et de la dégénération, qui nous remplit de confusion. L'art zen est bien différent. Nous n'apprenons rien de tout cela. Nous apprenons seulement à imiter, à tout imiter, et cela ne nous mène nulle part. Nous devons développer en nous les pouvoirs de la création, de la créativité, mais nous faisons tout par imitation. Regardez le monde. C'est encore une imitation. Nous imitons les artistes. Nous coiffons comme eux, nous nous habillons comme eux, nous sommes tous habillés pareil, avec les mêmes pantalons, les mêmes chemises, les mêmes chaussures. Même si nous sommes ridicules, nous les faisons parce que c'est de la mode. Nous imitons les habitudes et les coutumes. De New York, par exemple, on ne trouve plus de chapeaux parce qu'ils ne sont pas à la mode. Nous prenons le soleil sur les crânes. Nous avons des coupes de chaleur parce que nous n'émettons pas des chapeaux parce que nous n'avons plus l'habitude de les porter. Auparavant, les chapeaux nous protégeaient très bien du soleil, mais maintenant, pas. Ce n'est plus la mode, c'était une habitude très ancienne, très bizarre, de notre temps, disons-nous. Il se passe exactement la même chose avec Lévis. Cet ami à l'école très connu, très apprécié, qui boit de l'alcool, nous l'imitons. Nous buvons comme lui pour être apprécié. Cette chère camarade qui fume, et qui semble très à l'aise, nous l'imitons aussi. Car cela n'est pas faire les choses par soi-même, ce n'est que de l'imitation. Nous devons commencer par avoir nos propres idées. Nous devons faire les choses qui nous sont propres. Nous devons avoir une identité propre, personnelle, et ne pas être la copie de la copie. Nous voyons une personne qui s'exclama en voyant quelqu'un. Ah voilà! Une personne qui appartient à telle religion. Mais pourquoi disons-nous cela? Parce qu'elle est habillée d'une certaine façon, parce qu'elle s'exprimait d'une certaine manière. C'est encore une copie. Non, chacun doit être différent, chacun doit avoir ses propres idées, sa propre façon de parler, sa propre façon de dire les choses. Il y en a certains qui sourient durant toute la conférence, des instructeurs qui sourient durant toute la conférence. C'est leur façon d'être. Et d'autres instructeurs qui restent très silencieux. C'est leur façon d'être. Et c'est très bien ainsi. Nous sommes et devons être tout différents les uns les autres. Nous ne devons pas être des copies, mais nous imitons tout le monde et dans tous les domaines. Notre mental devient très compliqué avec autant d'imitations. Nous ne connaissons rien de notre mental. Il est devenu une maison ou sepso, inexplorable. Rempli de cupidité, d'habitudes et de coutumes dégénérées. Et c'est tout. Il faut tout simplement ne pas s'imiter, il faut créer, ressentir et penser librement. C'est tout qui, ont duré des années et des années, n'auront servi à rien si nous sommes les mêmes en entrant à l'école et en y sortant. Apeurés devant la vie, remplis d'intrigues et d'histoires et de rumeurs sur la vie des autres, n'ayant peur de perdre notre emploi, parce que nous ne savons pas comment nous allons en trouver un autre. Nous nous imitons à seulement imiter. Nous nous limitons seulement à imiter. À nous transformer en petite machine qui parle, à enraciner de tant de choses à notre mémoire infidèle. Nous n'avons aucune maturité spirituelle, émotionnelle. La seule chose que nous savons faire, c'est être contre les autorités. Nous devons vraiment réfléchir à tout ce qu'il faut qu'il fait l'éducation. Beaucoup de philosophes, beaucoup de penseurs, beaucoup de scientifiques, psychologues, médecins, ont horreur des autorités. Ils ne veulent pas d'autorité, mais il y a d'autorité en tout. Les parents sont une autorité. Les professeurs à l'école sont de l'autorité. Les gouvernements sont aussi de l'autorité. Mais il faut distinguer, mes chers amis, d'une autorité consciente et d'une autorité subconsciente. Les autorités subconscientes ou inconscientes ont rempli le monde de douleurs et de souffrances à cause de leur abus. Il y a des pères de famille, c'est en honte, qui se croient en hôte de la société et de l'humanité et qui traitent leurs enfants comme des moins que rien, qui leur disent qu'ils ne valent rien. Oui, c'est bien ainsi que nous sommes souvent. Il y a de l'abus dans ces agissements. C'est de l'autorité subconsciente. Nous demandons à nos enfants de faire des choses absurdes, incohérentes, illogiques. Et nous croyons que tout va bien, que c'est très bien. Il est écrit dans la Bible, des aveugles qui guident d'autres aveugles. Cela ne concerne pas que les pères de famille. Nous sommes beaucoup de professeurs à agir ainsi. Nous demandons aux élèves de faire des choses absurdes. Nous sommes beaucoup de chefs d'entreprise qui agissons aussi de cette manière. Nous sommes beaucoup de gouvernements à faire cela. Nous sommes toutes les mêmes. Il y a été fait, il y a quelque temps, une récapitulation des impôts absurdes qu'il y avait à l'époque du règne de Renato. En effet, les impôts étaient calculés en fonction de nombre de fenêtres que les gens avaient à leur maison. Il existe des impôts qui sont vraiment absurdes de nos jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a des autorités subconscientes dans la famille, à l'école, dans le gouvernement, dans le travail, et aussi dans les religions. Nous le répétons encore une fois, les religions ne sont pas mauvaises, mais il y a dans certaines écoles philosophiques ou religieuses des leaders spirituels qui sont complètement dans l'erreur, qui sont une autorité inconsciente, et traitent très mal les étudiants ou les personnes qui assistent à leur réunion. Les autorités sont nécessaires. Dans un examen d'abeille, par exemple, il y a de l'autorité. Dans un atome, il y a de l'autorité. On ne doit pas être contre l'autorité parce que sinon l'anarchie s'installe. Mais nous avons besoin d'une autorité autoconsciente. Et nous ne pouvons pas exiger une autorité autoconsciente si dans notre famille, nous ne sommes pas nous-mêmes une autorité autoconsciente. Vous voyez, nous devons commencer par nous-mêmes. Nous devons commencer chez nous. Nous devons commencer par nous éduquer nous-mêmes. Cette autorité autoconsciente n'est possible que si nous nous autoconnaissons. Nous avons besoin de connaître nos propres défauts, notre orgueil, notre fierté. Nous sommes remplis d'autosuffisance et nous mutilons le mental des autres. Nous ne les laissons pas penser par eux-mêmes. Nous ne leur promettons pas d'être eux-mêmes. Nous avons donc besoin de nous connaître nous-mêmes. L'autorité consciente est complètement différente. L'autorité inconsciente ou subconsciente. Une autorité consciente, qu'elle soit du gouvernement, dans la famille, à l'école, dans une religion ou une entreprise, se donne le luxe de connaître et d'apprendre des personnes dont elle s'occupe. Bien sûr, nous devrions tous avoir la liberté de la libre initiative pour faire les choses, mais à l'intérieur d'un ordre. Il faut absolument que cette liberté soit dans un ordre. Et c'est ce que nous ne voulons pas comprendre. Nous confondons la liberté avec le libertinage. C'est comme ces petits jeunes qui veulent fumer de la marijuana à la maison parce qu'ils veulent avoir leur liberté. Mais ça, ce n'est pas de la liberté. La liberté véritable, c'est d'avoir, de pouvoir choisir soi-même sa propre vocation, sa propre profession. Voilà ce qu'est la vraie liberté. Mais entrer dans la dégénération en faisant n'importe quoi, non, ce n'est pas la liberté. La liberté doit exister à l'intérieur d'un ordre. Il faut apprendre à savoir ce que nous faisons pour apprendre à avoir une autorité consciente. Parce que tôt ou tard, nous deviendrons, nous aussi, une autorité. Nous serons une autorité de grande ou petite importance, mais nous serons une autorité. Et comment pouvons-nous obtenir une autorité consciente? Eh bien, en commençant par prendre conscience de ce que nous faisons. Comment est-il possible que nous ne sachions plus où nous avons posé notre livre? Comment est-il possible que nous ne sachions plus où nous avons mis nos clés ou notre parapluie? Pourquoi est-ce que nous oublions notre sac ou notre parapluie dans un magasin? Pourquoi oublions-nous de descendre du bus à la station prévue? Et en plus, nous nous en rendons compte que quelques stations plus loin, Nous avons les yeux grands ouverts, mais nous avons la conscience bien endormie. En continuant et en restant ainsi, nous ne pouvons pas être des autorités autoconscientes. Cela nous rappelle l'anecdote d'un disciple saint qui était resté 10 ans en méditation. 10 ans en travaillant dans les disciplines saines et qui avait décidé d'aller visiter son maître pour lui demander l'autorisation de devenir un instructeur saint lui-même. Il se dirigea vers la maison de son maître et comme il est d'usage, il enleva ses sandales en dehors de la salle de méditation. Il avait aussi son parapluie parce qu'il pleuvait ce jour-là. Il enleva ses sandales et posa son parapluie donc à l'entrée de la salle de méditation. Il saluait son maître en faisant les révérences de sage. Le maître lui demande alors ce qui l'amène et le disciple lui répond qu'il est resté 10 ans en méditation et en travaillant du coup sur toutes les disciplines saines. Il se sent maintenant avoir la capacité suffisante pour devenir instructeur et lui demande donc son autorisation. Le maître lui répondit « Oui, bien sûr. Mais l'unique chose que je vais te demander avant de te donner l'autorisation d'être un instructeur zen, c'est de me dire si tu as mis ton parapluie à côté de tes sandales à droite ou à gauche de celle-ci. » C'était la seule condition que lui demandait le maître pour lui permettre de devenir un instructeur zen. Et que pensez-vous que le disciple répondit? Rien. Il ne sut quoi répondre. Il ne se souvenait pas de tout où il avait placé son parapluie par rapport à ses sandales. Ce qui signifie que le disciple était comme nous tous. Il avait encore la conscience endormie. Et en faisant les choses de manière automatique, sans être réellement là. Notre corps est ici, notre corps a fait des choses. Notre corps même parle, écoute, sans avoir la conscience. Notre conscience est loin d'ici, loin, très loin d'ici. Alors, nous devenons comme des robots. Notre machine humaine est ici, mais notre conscience est complètement loin d'ici. Cette anecdote nous concerne tous. Nous sommes tous ainsi. En tant que père de famille, en tant que professeur, en tant que chef d'entreprise, nous devons prendre conscience des choses. Nous devons éveiller notre conscience et avoir une autoconscience. Et pour cela, nous devons commencer à comprendre nos défauts psychologiques et les identifier, parce que c'est à cause d'eux que notre conscience est endormie. Nous devons les connaître dans les 5 centres de la machine humaine, parce que les égos, les défauts psychologiques, se manifestent de façon différente dans le mental, dans le cœur, dans les différents centres moteurs, instinctifs et sexuels. 5 centres. Voyons un exemple. Nous avons une amitié qui nous impressionne beaucoup. C'est un ami au travail ou un ami pour les femmes. Un voisin ou une voisine qui nous apprécions vraiment beaucoup. Si nous analysons cette amitié en méditation, nous allons la voir dans le mental comme un idéal. Il ou elle fait attention à moi, prend de mes nouvelles lorsque je suis malade, vient me rendre visite, me donne des conseils, etc. Puis, lorsque nous analysons cette amitié dans les centres émotionnels, nous remarquons que nous ressentons un certain jouet. Lorsque nous nous trouvons aux côtés de cette personne, on est content, on se sent bien dans sa compagnie. Mais, ce qui est curieux, c'est que l'on ne reste pas du tout la même chose avec un ou une autre colère qui est tout aussi intentionnée à notre égard. Ou avec le voisin ou la voisine qui a 80 ans et qui nous cajoule aussi à la moindre occasion. Nous ressentons une joie différente seulement avec cette gentille ou cette gentille belle colère. Et si nous analysons cette joie dans notre centre sexuel, nous nous rendrons compte, nous découvrirons quelque chose de malsain. Vous voyez, tous les défauts doivent être ainsi analysés dans tous les départements, dans les 5 centres, pour découvrir comment se manifestent ces défauts dans chacun de nos centres. Ce n'est seulement qu'ainsi que nous comprendrons nos défauts et que nous pourrons alors les désintégrer. Et en les détruisant, nous pourrions alors apprendre à obéir parce qu'il y aura toujours des hiérarchies au-dessous de nous. Si nous apprenons à obéir, nous apprendrons aussi à donner des ordres nous apprendrons à devenir une autorité consciente. Dans l'éducation, la discipline est un facteur essentiel. Mais nous confondons tout. Nous croyons que la discipline, c'est cultiver la résistance, mais non. C'est un concept qui est complètement faux. Par exemple, nous cultivons la résistance pour ne pas boire de l'alcool et nous disons que c'est de la discipline. C'est une idée fausse. Je ne dois pas boire, je ne bois pas, je ne boirai pas. Je ne dois pas boire, il ne faut pas que je boive, etc. Nous pouvons le faire durant une année. Oui, mais il va arriver un moment où nous recommencerons à boire encore plus. Pourquoi? Parce que nous avons alimenté la résistance. Pas la discipline, pas la conscience, mais la résistance. Alors, à quoi aura servi cette soi-disant discipline? Voilà ce qu'on appelle la culture de la résistance. Nous apprenons à résister à la colère, à ne pas nous mettre en colère. Nous essayons à toute prise de ne pas nous mettre en colère. Et cela a pour résultat des douleurs d'estomac ou autre chose de ce genre, parce que nous avons révélé notre colère. Il faut absolument que je résiste à la cupidité. Je dois résister, je dois résister, je dois résister, et ne plus être jaloux. Jaloux. Mais à l'intérieur, nous en sommes malades. C'est la discipline qui nous comprise. Non comprise, pardon. C'est la discipline non comprise. C'est de la résistance qui nous fait devenir cruel et insensible, qui nous fait tomber dans la cruauté envers les autres. Dans ce cas-là, une discipline qui n'est pas du tout comprise. Nous devons changer cette résistance. Nous devons changer sa résistance à la discipline parce que la compréhension part de la compréhension. Car lorsque nous comprenons, par exemple, que nous ne devons pas boire, alors nous ne buvons plus. Même si on nous invite, même si nous sommes dans une fête où tout le monde s'enivre. Pourquoi? Parce que nous avons compris que l'alcool nous fait du mal, que l'alcool a des conséquences terribles. Nous devons apprendre à abattre ces murs que sont les concepts erronés que nous avons depuis toujours. Et c'est vraiment très difficile parce que si nous avons 50 ans, par exemple, et qu'on nous dise « Tu as vécu de 50 ans en étant complètement dans l'erreur », bien sûr que c'est la noblesse, n'est-ce pas? Nous fait du mal, nous fait souffrir, et si en plus on sait que c'est la vérité, alors c'est pire. Immédiatement, on s'est justifié. Mais au lieu de nous justifier, nous devrions essayer d'expérimenter, de comprendre chaque élément indésirable qui se trouve en nous-mêmes, parce que quand on les comprend, alors se produit en nous une réaction correcte, une attitude correcte, un élément unificateur, un élément créateur qui nous permet d'être quelqu'un de neuf, de nouveau, qui nous permet de devenir sensible et humain, et non plus cruel lorsque nous cultivons la résistance. Tous les règlements et les disciplines de nos jours nous sont menés à la cruauté. Très souvent, lorsque nous entrons dans l'armée, et l'armée n'a tout, n'a rien de mal non plus, car nous avons besoin de personnes qui nous protègent. Mais ce qui n'est pas bon, c'est qu'avec tous ces règlements et disciplines, nous devenons cruels. Voilà ce qui n'est pas correct. Si nous nous trouvons dans l'armée ou dans la police, il faut que cela soit notre vocation. Et il faut que nous méditions et que nous comprenions que les choses, pour ne pas perdre notre sensibilité, notre humanité, et tomber dans la cruauté. Nous devons méditer et réfléchir pour ne tomber pas dans la cruauté. Il nous faut donc de la liberté. Mais aussi, je le répète, aussi de l'ordre. Nous devons apprendre à être attentifs à tout ce que nous faisons. Et lorsque nous faisons attention à tout ce que nous faisons, nous économisons énormément d'énergie créatrice qui nous permet de nous exprimer correctement dans la vie. Nous devons en finir avec cette fantaisie et mécanicité, mécanique que nous vivons tous. Pardon. Cette vie des robots. Cette vie endormie dans laquelle nous sommes. C'est pour cela que nous devons apprendre à diriger notre attention. Nous commencerons à nous éduquer correctement lorsque nous réussirons à diviser notre attention en trois parties. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? et où nous trouvons-nous? Qui sommes-nous? C'est être consciente de ce qui arrive dans nos cinq sens qui ensuite arrive dans notre mental. Comment réagit notre mental devant les impacts de nos cinq sens? Voilà la première partie de notre division, d'accord? Nous devons rester conscients de cela. À continuation, devenir consciente de qui faisons-nous, sans perdre la conscience de qui sommes-nous, de qui sommes-nous en train de percevoir, en train de penser, en train de réactionner, en train de réactionner. D'accord? Nous ne perdons pas cela. Mais, en plus, nous devons être conscients de ce que nous faisons à l'instant. Si nous marchons, marcher. Notre conscience doit être là-bas. Si nous mangeons, manger. Ne pas lire les dispositifs cellulaires, les téléphones portables. Si nous nous habillons, s'habiller. Eh bien, faire ce que nous faisons, avoir notre conscience ici et maintenant. Et en plus, dans quel endroit sommes-nous? C'est-à-dire, devenir consciente de l'endroit où nous nous trouvons maintenant, dans chaque moment. Devenir conscient de cet endroit. Pas seulement des lieux, mais aussi les motifs, la raison pourquoi nous sommes là-bas. Et aussi, si nous sommes dans le monde physique ou dans le monde astral, dans quelle dimension sommes-nous? Nous commençons à prendre conscience, alors à être libres, à être autoconscientes. Et alors, mes très chers amis, nous pouvons commencer une éducation fondamentale. Voilà. Nous avons terminé cette conférence sur l'éducation fondamentale. Et nous vous recommandons, pour approfondir ce sujet, que nous avons vu aujourd'hui de lire les chapitres 1, 2, 3 et 4 du livret « Éducation fondamentale » par le maître Samael Aumbeor. Ce livret est gratuit, bien sûr, vraiment merveilleux dans la totalité. Vous pouvez le télécharger de notre bibliothèque, il est en PDF, dans notre webpage en français, www.samaelgnosis.net. Dans la section en français. Chers amis, merci beaucoup pour nous accompagner aujourd'hui. À bientôt.